Bonjour à tous. Je confirme ce que David disait concernant l'arrosage du haut. Ça, c'est le plus efficace. Chez nous aussi, ça pousse après la pluie qu'on a eue, magnifique. Dieu est vraiment efficace. Et aujourd'hui, voilà, on a sa parole ce matin et j'espère aussi que Dieu vous bénisse à travers de cette pluie, sa parole. Donc on va continuer la quatrième partie de Ecclésiaste. La dernière fois, Salomon nous a présenté les avantages d'un couple et puis l'avantage d'une famille. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Effectivement, on va plus loin dans la vie quand on est à deux et la vie devient normalement plus facile, plus léger. Des fois, c'est à l'envers aussi. Mais en général, c'est plus facile. Pensez-y à un sac qui pèse 100 kilos. Porte-le tout seul. C'est dur. Et porte-le à deux. C'est plus facile. Donc, deux valent mieux qu'un. Et la corde à trois filles ne se rompt pas facilement. La corde représente une unité, donc une femme, un homme et un enfant. Une famille comme Dieu le veut nous donne une stabilité, nous donne la force. Et beaucoup de familles font finalement une société. Mais peut-être il n'y avait pas assez d'encouragement la dernière fois pour ceux qui sont entre guillemets seuls. Donc je veux bien vous encourager ce matin si vous êtes seul. Si vous êtes chrétien et seul à cause peut-être d'un décès ou divorce ou d'autres circonstances, n'oubliez pas que vous êtes en Christ. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas seul. Vous êtes déjà à Dieu, à deux. Et en plus, Dieu vous a donné une famille. Vous avez des frères et des sœurs, donc vous n'êtes pas du tout seul. D'après 1 Timothée 5, 5, mettez votre confiance en lui, priez jour et nuit, il est là pour vous soutenir. Et d'après Psaume 146, 9, il vous protège, vous n'êtes pas du tout seul. Que pourrait nous dire aux jeunes qui sont tout seuls, s'ils n'ont pas encore trouvé la bonne femme ou le bon homme? Lisons Proverbe 19, 14, s'il vous plaît. Proverbe 19, 14. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. C'est un don de l'Éternel. Donc si vous êtes seul, si vous êtes jeune, attendez, espérez au Seigneur, il vous donnera une aide à son temps. Ne vous crispez pas. Nous avons un fils, lui-même, il essaye d'avoir une aide, une femme, mais il le fait à son façon. Il est tellement crispé, il achète une bonne voiture, il va chez le coiffeur, je ne sais pas quoi, mais ça ne va pas. C'est un don de l'Éternel, je lui dis. C'est lui qui te donnera ta femme. Donc espérons lui. On va continuer donc avec l'Ecclésiaste 4, 13 à 16. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis, car il peut sortir de prison pour régner et même être né pauvre dans son royaume. J'ai vu tous les vivants qui marchaient, qui marche sous le soleil entourait l'enfant qui devait succéder au roi et régner à sa place. Il n'y avait point de fin à tout ce peuple, à tous ceux à la tête desquels il était. Et toutefois, ceux qui viendront après ne se réjouiront pas à son sujet, car c'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Salomon nous décrit dans ces trois versets, donc un enfant, ou on peut dire aussi un jeune, qui est pauvre mais sage. Et il nous décrit aussi un roi qui est vieux et insensé et têtu, qui ne sait plus écouter les avis. Avec l'âge, c'est possible aussi que nous deviendrons un peu têtus, parce qu'on a d'expérience, on sait mieux, etc. Quel esprit règne en vous? Vous faites partie de quel groupe? Donc c'est lui, comme le roi, têtu, on n'accepte pas d'autres avis, on sait mieux. Ou vous êtes comme ce jeune, vous êtes sage, donc vous retirez quelque chose des autres, vous êtes à l'écoute. Vous écoutez le Seigneur, vous écoutez les frères et sœurs. Peut-être eux aussi, ils ont raison. Donc vous êtes capable à demander aussi d'autres avis. Jacques 1, 19. S'il vous plaît. Jacques 1. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Nous avons deux oreilles et une bouche. Des fois, on a l'impression, certains, ils ont deux bouches et peut-être une oreille. Ils n'arrêtent plus et ils n'écoutent pas. D'après 2 Timothée 2, 3 à 4 et Éphésiens 6, nous nous trouvons dans une guerre spirituelle entre les ténèbres et la lumière. Le Proverbe 24, 5 à 6 et le Proverbe 20, 18, il nous dit, si on est sage, si on est à l'écoute, nous avons la victoire ensemble. Luttons ensemble avec sagesse contre les ténèbres, avec notre chef de l'Église qui est le Christ. Ensemble. C'est ça la force des frères et sœurs. Revenons au texte. Pendant le vieux roi régnait, le jeune, il était au prison, certainement à cause de la injustice qui régnait dans son royaume. Ensuite, par contre, ce jeune homme sage est monté rapidement à l'échelle de la popularité devant un grand peuple. Comme il venait de la base, donc il connaissait la misère, l'injustice sociale, les problèmes du petit homme. Il parlait la langue de petit homme. Il a pu gagner le cœur du peuple. Et il est devenu la tête de ce grand peuple. Ça nous rappelle un peu l'histoire de Joseph aussi, qui était au prison. Et il est monté aussi rapidement. Il est devenu deuxième homme d'Égypte après le Pharaon. Et donc ce jeune homme, il a remplacé finalement le vieux roi insensé et têtu. Quelle belle histoire! Donc la courbe pour ce jeune homme, elle est montée très haut. Quelle est la leçon pour nous aujourd'hui de cette histoire? Qu'est-ce qu'on peut retirer? Qu'est-ce que Salomon veut nous dire à travers de cette histoire? Tout d'abord, encore une autre question. Est-ce que la génération après, ils étaient contents de ce roi jeune? Verset 6b. Et toutefois, ceux qui viendront après ne se réjouiront pas à son sujet, car c'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Donc, ils n'étaient pas contents. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? L'ambition qui veut obtenir le favoritisme auprès d'un peuple est une vanité et poursuite du vent. Pourquoi? Car elle est temporaire. Le vent peut changer vite. Donc déjà, la génération d'après, ils étaient plus contents de ce nouveau roi. Ça nous montre aussi que tout peut changer dans la vie. Réfléchissez, Jésus, il a été accueilli comme roi à Jérusalem, comme sauveur, mais juste un petit peu plus tard, ils ont crié « Crucifiez-le, crucifiez-le ». L'ambiance peut changer. Que cherchons-nous? Est-ce qu'on cherche la gloire des gens? Ou est-ce qu'on cherche la gloire de Dieu, qui n'est pas temporaire? Jean 5, 44. Jésus dit, « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul ?» Quelle est ta motivation dans le service pour le Seigneur? À qui vous voulez vous plaire? À l'homme ou à Dieu? L'apôtre Paul nous dit, je fais tout pour la gloire de Dieu. Si je mange, si je bois, si je travaille, si je sers le Seigneur, je cherche sa gloire. C'est ça qui reste. D'autres actions qui viennent de nous-mêmes, les actions qui nous font monter peut-être devant les gens, ces actions brûleront, d'après 1 Corinthiens 3, 13 à 15. Ça ne restera pas. Verset 17. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison des dieux. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Le sujet dans ce verset, c'est le culte, une observation de Salomon au temple, à la maison de Dieu. Là aussi, on voit qu'il y a deux groupes différents. Un qui vient offrir un sacrifice et l'autre qui vient écouter ce que Dieu veut dire à travers de sa parole. Donc, si à l'époque, il y avait quelqu'un qui venait offrir un sacrifice, par exemple un agneau, pour régler ses comptes devant Dieu ou payer ses péchés, il n'a rien compris. Il était un insensé devant Dieu. Et aujourd'hui, comment ça se présente aujourd'hui? Les gens font toujours des sacrifices. Pourtant, David, il avait dit, on a un sacrifice pour tout le temps. C'est suffisant, on n'a plus besoin de sacrifices. Jésus était suffisant pour nous tous. Donc, les gens continuent encore aujourd'hui avec des sacrifices. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se torturent, par exemple, eux-mêmes. Ils se frappent, ils se mettent à genoux et ils font un sentier, je ne sais pas quoi. Ils vont à Lourdes et ils reviennent plus malades. Fatima, Medjugorje. Donc, ils font tout pour plaire à Dieu, pour se sacrifier. Mais ils ne sont pas prêts à écouter la parole de Dieu. qui est à côté. Ils sont pas prêts à lire la parole du Seigneur. C'est la folie. On fait des milliers de kilomètres, mais on n'écoute pas la parole de l'Éternel. Ça, c'est très difficile dans notre société. On n'est plus capable à s'asseoir, à écouter attentivement ce que Dieu veut nous dire. On est toujours en train de bouger à gauche, à droite. On ne supporte plus la silence. On veut toujours faire quelque chose. On est toujours en action. Donc, on fait des dons aussi. La haute société, on voit, ils font un grand chèque pour calmer la conscience. On fait un don aux hôpitaux pour les malades. Ou peut-être on vient à l'église parce que comme nous ne sommes pas trop nombreuses, il faut remplir l'église. Ou on vient à l'église pour offrir un petit peu parce que sinon l'église va couler. Je ne veux pas dire que c'est faux tout ça. Mais si on fait un sacrifice pour avoir une bonne conscience ou si on le fait pour couvrir ses péchés devant le Créateur, c'est mauvais, c'est même méchant. Ça va pas. Prends garde à ton pied avec quelle attitude nous venons à l'église. S'il vous plaît, Proverbe 15, 8. Proverbe 15, 8. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Quelle est la différence entre ces deux dans ce verset? Il y a un qui donne quelque chose à l'Éternel et l'autre, il demande. Il demande. Est-ce que l'homme peut donner ou rendre quelque chose à son Créateur? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut donner à Dieu qui n'a pas? Rien. Rien du tout. Psaume 89. Psaume 89. Verset 12. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Tout appartient à lui. Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Qu'est-ce que vous voulez lui donner? Tout appartient à lui. Même vous appartenez à Dieu. Colossiens 1, 17. Et toute chose subsiste en lui. Est-ce que vous êtes consciente? Si Dieu enlève sa main, tout s'effondre. On n'a pas le soleil, on n'a pas le souffle, la cellule, la petite cellule, elle ne travaille plus. Tout subsiste en lui. Que peut l'homme donner à son Créateur? Est-ce que vous avez une idée? Exact, c'est ça. Psaume 50, 14. Psaume 50, 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Voilà. Ou Hébreux 13, 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu au sacrifice des louanges, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. C'est tout ce qu'on peut faire. C'est tout ce qu'on peut donner à Dieu. Lui dire merci. Merci. En Jésus, Dieu nous a donné tout. Sa dernière phrase, c'était « Tout est accompli, Jean 19, 30. » Qu'est-ce que nous avons en Jésus? Tout. Nous avons le pardon du péché. Nous sommes réconciliés avec Dieu puissant. Nous sommes réconciliés aussi entre l'un et l'autre. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons la paix. Les gens font tout pour avoir la paix. Ils font des courses de yoga. Ils écoutent la musique avec des oiseaux pour être tranquilles. Mais malgré tout ça, ils n'arrivent pas. La paix donne le Seigneur à l'intérieur, lui seul. Nous avons la vie éternelle. Nous avons un héritage au ciel. Nous avons des appartements au ciel. Nous avons une nouvelle famille spirituelle de frères et sœurs en Christ. Nous sommes ambassadeurs du Christ. Nous avons toute la sagesse et connaissance d'après Colossiens 2, 3 en Christ. Les gens font beaucoup d'études, ils veulent comprendre tout, mais nous, on a tout compris à travers de Jésus. C'est lui notre sagesse en personne. Quand on a Jésus, on sait tout. Et c'est incroyable, mais c'est vrai, nous sommes des sacrificateurs, nous sommes des rois et nous serons des juges avec le Christ. On va juger le monde et les anges. Incroyable ce que Jésus a fait à la croix. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Magnifique. Riche en Christ. Il faut se dire ça de temps en temps, parce que des fois, les chrétiens, ils marchent comme ça, comme si c'était les plus pauvres. Nous sommes riches. Donc, si vous venez au culte, s'il vous plaît, venez avec cette attitude en tant demandeur, qui veut écouter, qui veut recevoir. Tout est gratuit, on peut rien payer à notre Créateur. C'est lui qui a accompli à la croix tout. Et si vous voulez donner quelque chose, vous pouvez, mais donnez ce que vous avez reçu. Faites-le avec plaisir, avec une grande reconnaissance, tout en sachant que c'est rien ce que je donne au Seigneur. C'est rien, c'est lui qui m'a donné tout. La religion, c'est ça, je donne pour recevoir. Je donne pour recevoir. Mais l'évangile, ce n'est pas ça. J'ai tout reçu, c'est pour ça que je donne. Chapitre 5.1. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Quel est le sujet, là, ce verset? C'est la prière. Que dit le Seigneur sur ces sujets? Prière. Il dit, on va lire ça, Matthieu 6, 7. C'est important. Nous avons toujours la tendance de raconter beaucoup de choses. Matthieu 6, 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens. Eux, ils font que ça. Ils parlent. Qu'ils imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous de lui demandiez. Donc, il faut pas faire trop de mots, peu de mots. 1 Pierre 4, 7, il nous dit, soyez donc sages et sobres pour vainqueur à la prière. Réfléchissez avant de prier. Imaginez si vous êtes devant le président de la République, M. Macron. Vous allez choisir vos mots. Vous allez bien réfléchir avant de parler, parce que ce n'est pas n'importe qui. Et là, vous êtes devant le Créateur, le Très-Haut, le Tout-Puissant, devant l'Éternel. C'est lui qui est omniprésent, c'est lui qui est trois fois saint, c'est lui qui est la lumière. Esaïe dit, devant la présence du Seigneur, loi de l'Éternel, « Malheureux à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Il s'effondre comme le chocolat dans une casserole. Quand on imagine, on est devant l'Éternel. Verset 2. Car si les anges naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Quand on est très occupé, quand on a beaucoup de pensées dans sa tête, quand on est sous la pression dans la vie, le cerveau il continue à travailler même la nuit, donc on a des songes comme le résultat. Et pareil, celui qui parle beaucoup sans prendre l'air, il dit beaucoup de bêtises ou de déchets, forcément comme résultat. Proverbe 10, 19, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Versets 3 à 6, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, n'anime pas les insensés, accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi de ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dise pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Le sujet ici, c'est un vœu. Un vœu fait devant Dieu. Avez-vous déjà fait un vœu devant Dieu? Personne? Si? Hein? Moi aussi, quand je me suis converti, 93, septembre, j'ai dit, Seigneur, dès maintenant, je veux te suivre. Toi, tu es tout pour moi. Je veux vivre pour toi. C'est toi mon roi, c'est toi mon berger. Je veux vivre pour toi. Ça, je l'avais fait le 26 septembre 93. Mais c'est dangereux de faire un vœu. Attention, d'après Salomon, c'est dangereux parce qu'on ne parle pas avec n'importe qui là. Connaissez-vous un vœu tragique dans la Bible? Très tragique. Un
juge.
Exactement. C'est ça, ce que j'ai pensé aussi. Jephté, il a fait un vœu tragique. On va lire ça, s'il vous plaît. Juges 11. Juges 11, 30 à 40. Jephté fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si tu livres entre mes mains le fils d'Amon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Amon, sera consacré à l'Éternel et je le offrirai en holocauste. » Jephté marcha contre les fils d'Amon et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite. Depuis Aroer jusque vers Minit, espace qui renfermait 20 villes, et jusqu'à Abel-Keramim. Et le fils d'Amon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Jephté retourna dans sa maison à Mitzpah, et voici sa fille sortit au devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autres filles. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et il dit, « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne pu le révoquer. » Elle lui dit, « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, de fils d'Amon. » Et elle dit à son père, « Que ceci me soit accordé, laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'en irai, je descendrai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. » Il répondit, « Va. » Et il la laissa libre pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout de 2 mois, elle revient vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume que tous les ans les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephté, le Galadite, 4 jours par année. Quel vœu ! Tragique. Comme définition, un vœu, c'est une promesse faite à la divinité pour obtenir sa faveur ou remerciement d'une prière exaucée. Jephté n'a pas réfléchi à ce moment-là. Sa langue allait trop vite. Bien sûr, il pensait plutôt à un animal comme sacrifice. Jamais à sa fille. C'était son enfant unique. Jamais il deviendra grand-père. Et sa fille connaîtra jamais un homme et restera célibataire à vie. Jamais elle aura une famille. Jephté, il n'aura pas de petits enfants. Jacques nous le dit. La langue est un petit membre et elle se vante des grandes choses. Voici comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. La langue aussi est un feu. La langue peut faire du dégât énorme. On peut louer le Seigneur, mais aussi on peut détruire la vie de quelqu'un avec notre langue. Est-ce que Jephté a offert sa vie en holocauste finalement? C'est délicat cette question. Que pensez-vous? Après moi, non plus. D'après la loi, c'était interdit déjà d'offrir des enfants en holocauste. Deutéronome 12, 31, Lévitique 18, 21. Donc ça ne peut pas être ça. Voici mon explication. Jephté a consacré sa fille pour qu'elle serve le Seigneur au temple à vie. Déjà, on ne lit pas qu'elle était sacrifiée en holocauste. On ne lit pas, il n'a pas fait. Elle dit, je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. Et si on lit Exode 12, 38, 8, pour confirmer ce que je vous dis, Exode 38, 8, il fit la cuve d'Aaron avec sa basse d'Aaron en employant le miroir des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Donc, à l'entrée de la tente, il y avait des femmes qui servaient le Seigneur. Sur le livre de 1 Samuel 2, 22, là aussi on apprend que le fils d'Élie couchait avec les femmes qui travaillaient à l'entrée de la tente d'assignation. Donc, il y avait des femmes. Par contre, Dieu n'a pas accepté ce crime. Pas du tout. Israël était battu par leurs adversaires. 30 000 hommes ont perdu la vie. Quelle défaite contre les Philistins. Et l'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. On ne peut pas rigoler avec Dieu. C'est pas possible. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Nous avons un Dieu trois fois saint. Et nous savons, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Est-ce que Dieu nous demande de lui faire un vœu? Non. Donc faites attention de dire n'importe quoi. Mieux vaut pour toi de point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas accomplir. Verset 5, ne permets pas à ta bouche qu'elle fasse des promesses devant Dieu comme ça, sans réfléchir. Tu es devant Dieu, devant l'Éternel. Dieu pourra te juger. Matthieu 12, 36, c'est un verset qui est très très dur. Je vous le dis, un jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Moi, quand je lis ça, oui, nous avons un Dieu trois fois saint. Réfléchissons ce qu'on dit, ce qu'on promet. Il vaut mieux, si vous avez fait un vœu, demandez le Seigneur un pardon. Dites-lui, j'allais trop vite, je n'ai pas réfléchi. Si ça vous est arrivé, avant que Dieu vous juge. Quel est le prix ou le profit des songes? Si on a des songes tous les jours, qu'est-ce qu'on obtient de tout ça? Rien, ça ne sert à rien. Et si quelqu'un parle sans arrêt, il essaye de parler beaucoup et il multiplie les paroles pour nous expliquer quelque chose, mais il n'arrête plus. Il dit beaucoup de choses pour dire très peu, finalement. C'est tout. Et après, on a mal à la tête. C'est tout. Mais quand on craint Dieu, on reste sur terre, sur le tapis. On n'y va pas dans les fantasmes. On ne va pas parler n'importe quoi. Nous avons tous beaucoup d'idées, des projets dans la tête. Mais craindre Dieu nous protégera de faire des bêtises ou de dire des bêtises. Donc, soumettez-vous sur sa volonté. Craignez Dieu. Écoutez-le. Obéissez-le. Attendez que Dieu agisse dans votre vie. Et je veux finir avec Jacques 4, 15. Vous devrez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. C'est ça qu'il faut dire. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Amen.